102-1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On lâche pas, les amis, puisqu'ensuite, c'est 4 jours de congé en ligne pour les plus chanceux. Sinon, c'est 3. Sinon, c'est 2. Puis sinon, ben, on pense à vous autres. On va penser à vous autres en fin de semaine. Mon invité de ce soir, j'en ai parlé un peu sur l'heure du midi. C'est quelqu'un que j'aime bien dans le milieu de la politique. Quelqu'un qui est venu une couple de fois nous rencontrer en studio, dans mon autre vie radio, puis dans cette vie-ci aussi. Pourquoi je l'apprécie? On s'est posé la question sur l'heure du midi, c'est que j'ai pas l'impression que ce gars-là me ment. C'est assez rare que j'ai cette impression-là pour certains politiciens, mais lui, en tout cas, depuis le début, m'a toujours dit la vérité. Puis c'est la raison pour laquelle je le respecte beaucoup. C'est Jean-François Gosselin qui est conseiller à la Ville de Québec. Salut Jean-François.
Merci pour ces bons mots pour commencer.
Bien, je le pense sincèrement. Tu sais, je pense qu'on a discuté ensemble, toi et moi, sur Twitter sur un autre dossier, puis je te l'ai dit, tu sais, j'ai confiance en toi. T'sais, j'ai confiance en toi, puis j'aurais aimé ça que tu sois un jour le maire de Québec. J'ai pas désespéré de ça. J'ai espoir encore que tu sois un jour le maire de Québec, mais j'ai toujours apprécié, puis je pense qu'on va passer 60 minutes très intéressantes ensemble ce soir. Comment ça va, la politique? Tu tripes-tu encore autant politique?
Ouais. En passant, c'est réciproque, là. Je te retourne les compliments. J'ai toujours dit, j'aime ça parler avec du monde, même quand on n'est pas d'accord, on est capable de se parler, ouais, de se respecter. Puis même, ça nous permet de se remettre en question des fois aussi. Hein.
Ben
avec nous autres, on n'est pas toujours d'accord. Puis la politique, ben c'est beaucoup ça que ça m'amène au quotidien. Je carbure à ça, je retrouve beaucoup ce que j'aimais dans le sport. J'ai grandi dans le sport, dans le hockey de compétition. J'ai toujours dit que j'étais un joueur étudiant. Ça m'a amené à faire mes études aux États-Unis, puis à évoluer là-dedans. Puis là, aujourd'hui, bien, je recommence le cycle là, avec mes fils qui jouent au hockey de 13 et 14 ans.
Oui. Puis on en parlait tantôt avec des employés de la station, des gens que tu connais bien parce que leur gars joue avec les tiens.
Exact, exact. Puis c'est le fun de se retrouver dans les arénas, puis de les voir grandir là-dedans, puis d'essayer aussi d'enseigner un peu, tu sais, moi, ce que j'ai appris. Tu sais, les erreurs que j'ai faites aussi.
Ouais.
Puis souvent, ça revient à la même chose. Je dis que ce soit dans le sport ou dans le travail ou dans la vie en général, fais-toi confiance. Fais confiance aux autres aussi. Puis même quand ça va mal, à un moment donné, regarde, continue de travailler, fais-toi confiance, ça va mieux aller. Puis ça, à force de répéter ça, puis là, qu'est-ce qui est le fun avec le hockey, contrairement peut-être à d'autres sports qui compétitionnent peut-être pas aussi souvent, c'est qu'au hockey, t'as toujours deux matchs, trois matchs par semaine, puis t'as une chance de te reprendre.
Exact.
T'as une chance de te reprendre puis de dire, hey là, j'ai vu la différence, je suis arrivé mieux préparé, j'ai fait un bon warm-up. Puis la politique, pour moi, c'est un peu ça que je retrouve en politique, que j'aimais dans le sport. Y a des hauts puis il y a des bas. Il y a des journées où tu te dis qu'est-ce que je fais là? mais ça dure jamais vraiment longtemps. Parce que j'aime ça, j'adore ça. J'aime travailler avec les gens avec qui je travaille. C'est un sport d'équipe aussi. Donc, je continue là-dedans, puis je veux faire avancer les choses.
Ouais. Toi, t'as fait de bonnes études tout en continuant de jouer au hockey. Je sais que tu étais gestionnaire d'entreprise aussi. Qu'est-ce qui t'a amené à la politique? Tu étais pour l'ADQ dans le temps?
Oui, oui. Ouais. À la base, lorsque je suis revenu au Québec après mes études aux États-Unis, j'ai joué une année professionnelle dans le sud des États-Unis. Ben, quand je suis revenu au Québec, on commençait avec ma blonde, la famille, la maison.
Ouais.
Je revenais après 8 années que j'étais parti de Québec. Je revenais à Québec pour m'installer, pour élever ma famille. Puis là, je suivais la politique. J'ai toujours aimé ça un peu, les débats, la politique en général. Puis j'écoutais Mario Dumont avec la DQ dans le temps, puis je trouvais que ça avait de l'allure ce qu'il disait, ce qu'il proposait, puis j'ai tout simplement... En fait, l'anecdote, là, c'est que je me souviens comme c'était hier, en 2006, suite à la victoire des Remparts, la Coupe Memorial, la deuxième plus récente, là, en excluant celle de l'année dernière, j'ai entendu une entrevue à la radio de Sylvain Légaré, qui était député de la DQ déjà à l'Assemblée nationale.
Sylvain qu'on croise une fois de temps en temps dans le building ici, il s'occupe de la scène de Le Bourgneuf maintenant.
Exact. Puis Sylvain fait une entrevue à la radio pour raconter qu'il s'est présenté à l'Assemblée nationale avec un chandail des Remparts. Puis là, ça a comme fait un déclic, puis j'ai décidé de contacter l'organisation de la DQ suite après avoir entendu Sylvain. Et là, je les ai contactés. J'ai dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? Puis, 8 mois après, j'étais candidat et j'ai été élu député de l'Assemblée nationale. Quand on met le bras dans le tordeur, on passe avec, comme on dit.
Oui, puis ça doit être terrorisant. Quand on arrive dans les premiers jours à l'Assemblée nationale, bon, toi, t'as connu l'Hôtel de Ville. C'est ton travail maintenant en tant que conseiller. Mais quand t'arrives là, y a-tu un encadrement? Je veux dire, toi, t'étais pas dans ce cadre-là. Tu t'intéressais pas nécessairement au fonctionnement de l'Assemblée nationale. T'sais, nous, on regarde ça. On est dans les estrades, on regarde les politiciens. On dit, ah, lui, c'est un ci, lui, c'est un ça. Ça, c'est une bonne affaire, ça, c'est pas beau. Là, une fois que c'est toi qui es assis dans le siège, au jour 1, ça doit être stressant. Puis j'avais posé la même question au maire Marchand. Tu sais. Lui, il voulait se lancer en politique pour devenir maire. Chris, il a gagné. Une fois qu'il n'y a plus personne dans son bureau de maire, puis les portes se ferment, là, ta première journée, tu dis, je commence par quoi?
On est entouré.
Oui.
On est bien entouré. Lorsque j'ai gagné l'élection en 2007 avec la DQ, on arrivait là, il y avait déjà une équipe qui était en place, il y avait déjà des gens d'expérience, il y avait Mario Dumont,
ouais,
évidemment, qui était un bon professeur, un bon vulgarisateur, un bon mentor pour moi, pour nous, parce qu'on était 41 à se faire aider tout d'un coup. C'est certain qu'on est entouré par des gens compétents qui ont de l'expérience. Et c'est certain aussi, en même temps que c'est étourdissant,
ben oui,
c'est l'ivresse incroyable. Quand tu gagnes en politique, le feeling, c'est super. À l'inverse, lorsque tu perds, lorsque j'ai perdu en 2008, j'ai trouvé ça très difficile, mais ça aussi, j'avais besoin de le vivre pour savoir c'était quoi.
Puis je pense qu'on ne fera pas pleurer personne, mais la différence entre un électricien qui perd sa job pour l'entreprise où il travaille, ses amis vont être au courant, ses patrons vont être au courant, ses employés, ses chums, mais quand toi, tu perds ta job de député, c'est tout le monde qui est au courant que tu as perdu ta job de député. Là. C'est un congédiement où tout le monde est averti.
Mais comme tu le dis, n'importe qui perd son emploi ou qui vit une déception, c'est toujours difficile. C'est difficile pour la personne, mais c'est difficile pour les proches aussi autour. Hein. Puis la politique, souvent, moi, j'adore ce que je fais, puis je suis le premier à dire que c'est un beau métier, puis j'encourage les gens à se lancer en politique. Mais il faut toujours penser aux proches. Pensez à votre famille. Juste avant l'élection 2020, environ avant l'élection 2021, mon père, ma mère, je me faisais critiquer beaucoup par la chroniqueuse Karine Gagnon, là,
oui,
qui était toujours sur mon dos quand j'étais chef de l'opposition officielle. Puis là, mon père, à chaque fois, m'appelait avec ma mère, les deux sur le téléphone.
Les autres étaient enragés.
Là, les autres disent « Comment ça va? » Tout ça. Là, j'ai dit là, j'ai dit « Pas. » T'as déjà fait de la boxe, hein, ta vie? Mon père a fait 2 combats professionnels, lorsqu'il était jeune, évidemment. Puis j'ai dit, quand t'allais dans le ring, là, t'en mangeais des coups de poing. Puis tu gagnais pas tous les rounds, tu gagnais pas tous les combats. Hein? Non, hein, mais t'en as gagné des combats, t'en as donné toi aussi des coups de poing. Ben, j'ai dit ça, la même chose en politique. Là. J'ai dit, arrête de t'en faire à chaque fois que quelqu'un me tape dessus. Ça fait partie de la joute, ça fait partie de la game. Je le sais, puis inquiète-toi pas pour ça, tout va bien.
Ouais, puis c'est cruel parfois la politique, parce que peu importe pour le parti où on est, notre réélection ne dépendra pas à savoir si on a fait une bonne job ou non. Des fois, ça peut être juste le parti qui avait peut-être pas les meilleures idées pour le citoyen, puis le citoyen a décidé de voter pour un autre parti, puis toi, t'écopes pour les décisions du parti, alors que dans ton comté, t'as fait une super de belle job. Je parle de politique provinciale.
Ouais. Ben, c'est l'inverse est vrai aussi. Quand j'ai gagné en 2007 avec la DQ, pensez-vous vraiment que les gens ont dit « Hey, Jean-François Gosselin se présente dans Jean Lesage. »
C'est notre homme!
C'est notre homme. Peut-être que 2 ou 3 % peut-être qu'ils se sont dit « J'ai regardé le profil du gars, je l'ai rencontré dans son porte-à-porte, il a l'air sympathique, je donne sa chance. » Mais on s'entend que les gens votaient pour la DQ, les gens votaient pour Mario Dumont, et en plus, il y avait une vague. Puis c'est comme ça. C'est vrai, lorsque j'ai perdu en 2008, j'avais pas nécessairement le contrôle sur ma destinée, mais c'était pour les moins bonnes raisons. En 2008, j'ai perdu, mais pour les bonnes raisons, j'ai gagné en 2007. C'est comme ça qu'il faut le voir. Puis en politique, ça va pas au plus méritant. Ça va celui ou celle qui gagne, c'est la personne qui a le plus de votes. C'est les gens qui choisissent.
Ouais. Puis en parallèle, l'impact que tu peux avoir sur notre société en politique provinciale versus municipale, ça peut être quoi les grandes différences?
Ah, ça, c'est une excellente question, parce que quand j'étais député provincial, je croisais les conseillers municipaux dans les événements. Je les regardais aller, puis je me disais, hey, moi, je ferais jamais ce qu'ils font aux autres, là, m'occuper du déneigement, puis des poubelles, puis de. Là, je disais jamais. Mais la journée où j'ai commencé à m'impliquer en politique municipale, puis que j'ai été élu, là, j'ai commencé à vraiment préférer la politique municipale. Pourquoi? Pour la simple raison que, comme conseiller municipal, à l'arrondissement surtout, nous, on prend des décisions, on décide sur des dérogations mineures, par exemple, sur des changements de zonage. Donc, c'est de la politique de proximité. Donc, on va consulter les citoyens, on va se faire présenter des recommandations par l'administration. Et là, comme pour nous à Beauport, on est trois, on doit voter, puis on doit décider si on accorde, par exemple, la dérogation mineure aux citoyens ou non. Donc, on prend vraiment des décisions versus au provincial où là, bien, ça se passe pas mal plus en caucus, où on va prendre des orientations. Puis après ça, tout le monde vote ensemble. C'est très différent de la politique municipale et de la politique provinciale là, de ce côté-là.
As-tu l'impression que les auditeurs qui nous écoutent présentement savent ce que c'est vraiment que la job de conseiller?
Ben, en même temps...
Parce que c'est important de le savoir. Je veux dire, tu sais, moi, j'ose beaucoup de politique à la maison, puis j'ai la chance d'avoir une maison où on a le plaisir d'accueillir des amis, tu sais, chaque semaine, puis des fois, on jase de politique, des fois, on jase d'autres choses, puis je me suis rendu compte que il y a des gens qui ont vraiment l'impression que le conseil municipal se réunisse une fois par semaine, mais pour voter pour des affaires, mais en temps réel, c'est pas une job 40 heures par semaine, alors que, pour de vrai, vous travaillez énormément.
Bien, c'est ça aussi qui est différent du provincial, c'est qu'au provincial, on devait siéger de longues heures, puis en fin de session aussi, ça durait jusqu'à minuit, 1 heure du matin. On était en gouvernement minoritaire en plus dans le temps, puis au municipal, c'est pas ça, c'est un conseil municipal aux 2 semaines, c'est un conseil d'arrondissement, il y a un conseil, j'ai un conseil de quartier aussi une fois par mois. Par contre, c'est beaucoup plus de travail de terrain où là, les citoyens ont encore le réflexe, puis c'est ça notre travail parce qu'on représente les citoyens. Les citoyens vont contacter leur échevin, leur conseiller municipal, puis dire « Hey, ça fait quelques fois que je contacte la ville pour venir réparer la bordure là, du trottoir là, en face de mon stationnement. Mon auto accroche à chaque fois que je vais me stationner. Ben, peux-tu faire le suivi pour que ça se fasse? » Ou quand est-ce que ça va se faire? C'est ce genre de questions-là. Les gens, moi, je dis toujours aux gens, commencez toujours par le 3-1. Faites une requête au 3-1, que ce soit parce que la gestion des matières résiduelles, vos vidanges n'ont pas été ramassées, le déneigement n'est pas adéquat, selon où il y a des nids de poules, peu importe. Commencez toujours par le 3-1. Puis là, après ça, envoyez-moi votre numéro de requête. Puis moi, je ferai le suivi si c'est pas fait une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, là, peu importe le délai de l'intervention. Donc, c'est du service à la clientèle, beaucoup. C'est ça qu'on fait. Quand les gens aussi ont un projet d'agrandissement, par exemple, puis là, essayer de comprendre la réglementation municipale, là, ça peut être assez compliqué. Donc, dans ce temps-là, moi, ça me fait plaisir de les accompagner là-dedans. Puis de les aider à cheminer, puis contacter les bonnes personnes aussi à la ville.
Vous pouvez faire du cas par cas avec les résidents?
C'est toujours du cas par cas.
Ah oui, OK.
Au municipal, c'est ça que j'adore, c'est ça que j'aime. C'est tellement valorisant. Lorsqu'on réussit à venir modifier, exemple, un projet pour s'assurer que ça respecte la réglementation municipale, c'est toujours du cas par cas. Dans mon cas, moi, dans le nord de Beauport, t'sais, ça a été développé au début dans le nord-nord, c'était des chalets, là, c'était des maisons secondaires. Là, avec le développement de la ville au fil des années, bien, on doit venir réajuster. Il y a des terrains qui sont en pointe de tarte, par exemple. Puis là, les marches sont pas respectées. Puis là, la personne a dit, bien là, la famille, par exemple, on accueille heureusement un nouvel enfant dans la famille, on manque de place, il faut ajouter une chambre, il faut ajouter un bureau pour le télétravail, peu importe, là, la marge, il nous manque 28 cm. C'est toujours des cas comme ça, du cas par cas. J'aime ça me rendre sur les lieux, regarder un peu, prendre des notes, prendre des photos, revenir à l'administration et dire comment est-ce qu'on peut le travailler, qu'est-ce qu'on peut faire.
Tu vois, je suis beaucoup ce qui se passe au conseil municipal. Je regarde un peu ce que vous faites comme métier, mais enfin, pour ce qui est du provincial. Mais je savais pas que parfois, dans ton cas, en fait, c'est tout à ton honneur. Je ne sais pas si les autres le font aussi,
mais que tu
te déplaces pour prendre toi-même le dossier en main.
Les autres le font aussi. Oui, ça, c'est la job de conseiller municipal 101, là, c'est ça. C'est ce qu'on fait, c'est ce qui occupe le plus de notre temps. C'est vraiment ça, des cas de citoyens comme ça, qui ont des projets, qu'il y a quelque chose qui accroche, puis ils ont besoin d'un accompagnement. C'est, c'est ce qu'on fait au quotidien.
Tu trouves comment la couverture médiatique à Québec pour ce qui est de la politique municipale, provinciale, fédérale? Est-ce qu'elle est juste, cette couverture médiatique-là, ou parfois, parce qu'on a, on fait de la radio d'opinion, tu trouves que les animateurs ou les animatrices peuvent aller peut-être un peu trop loin, puis tu sais, je vais aller jusque-là. Des fois, tu sais, puis je te l'admets, je savais pas que vous vous rendiez directement chez les individus des fois pour régler leurs problèmes. Ça arrive-tu des fois que tu écoutes la radio et tu te dis, hey boy, sérieusement, ces gens-là donnent leur opinion sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Puis comment tu réagis face à ces critiques-là qui sont injustes parce que c'est pas factuel?
Ben, il y a beaucoup de médias à Québec. On est chanceux pour ça. Il y a beaucoup de médias qui sont très diversifiés. Il y a de la radio d'opinion aussi. Si on se compare à Montréal, il y a une station de radio à Montréal, on a l'impression que tout le monde écoute la même affaire.
Ouais.
À Québec, c'est vraiment pas le cas. Puis c'est pas le cas depuis plusieurs années. On est chanceux pour ça. Moi, lorsque j'ai décidé de me lancer à la mairie de Québec en 2017, du jour au lendemain, parce que j'ai profité de cette couverture médiatique-là. C'est-à-dire, il y avait un nouvel adversaire au maire Labeaume, puis ça a réveillé, je veux dire, la sphère médiatique. Puis du jour au lendemain, j'ai été capable de me faire connaître, de faire connaître mes idées, puis de réussir à me faire élire comme chef de l'opposition officielle. Donc, j'en ai profité. C'est certain que c'est un défi, puis c'est un challenge. Puis aussi, on a toujours l'impression, lorsqu'on est en politique, que tout le monde nous regarde tout le temps, que tout le monde entend puis lit chaque nouvelle qui nous concerne, ouais. Alors que c'est pas ça la vraie vie. C'est monsieur, madame, tout le monde écoute les nouvelles. Les gens sont au courant à Québec. Les gens aiment ça. Les gens savent ce qui se passe, mais pas dans le fin détail.
Non,
comme, c'est ça. Comme nous, ben, tous les petits détails qui nous attirent. Là,
exact.
Qui,
puis en tant que média, tu sais, quand on choisit d'un sujet qu'on veut jaser ou d'un politicien qu'on veut jaser, on fait du cherry picking. Tu sais, très honnête avec toi, je passe pas son 40 heures par semaine qu'il peut faire. Il y a certains trucs qui sont très bons, d'autres qui sont très mauvais. On essaie le plus possible d'être honnête, mais des fois, on sort des affaires, puis ça fait mal paraître le politicien ou ça le fait bien paraître, mais quand ça fait mal paraître le policier, tu sais, je veux dire, vous passez une varlope des fois, là.
Ouais, puis c'est trois, ça arrive.
Trois, quatre baffes, là.
C'est ça. Ça arrive à l'occasion. Ça m'est arrivé à l'aréna. J'allais voir un de mes fils jouer à l'aréna. Puis là, je suis en train d'aller m'installer pour regarder le match. Puis là, je croise les parents qui finaient de regarder le match d'avant. Puis un monsieur qui m'a passé un commentaire. Puis ça m'a pas plu, on va le dire comme ça. Puis je sais qu'il répétait ce qui avait été dit.
Ce qu'il avait entendu.
Pas sur vos ondes, mais ça, c'est les ondes d'une autre station de radio. Puis j'avoue que ça m'a fait quelque chose.
C'est clair que ça fait mal.
J'avoue que c'est venu me chercher.
Quand c'est justifié, Jeff, c'est justifié. Mais quand ça ne l'est pas, puis des fois, c'est des inventions ou des hypothèses qui sont avancées, puis la personne prend l'émission, elle rentre dans son char, elle entend ça, elle ne comprend pas le contexte d'avant, puis elle dit « Oh, ouais, Jeff Gosselin a fait ça. Hey boy, watch le bain, mec, je le croise à l'aréna. »
C'est ça. Puis, mais c'est pas la majorité des gens. Puis moi, je me fie à l'intelligence des gens aussi. Je fais ce que je fais, je fais ce que j'ai à faire.
Ouais.
À la fin de la journée, c'est les gens penseront, ils vont penser ce qu'ils veulent. Mais à la base, je fais confiance aux gens. Puis, mais j'avoue que quand ce petit commentaire-là, j'avoue que c'était venu me chercher. J'aurais eu le goût de répliquer, mais je me suis retenu. Je pense que j'ai bien fait.
Non, et puis c'est jamais à notre avantage, tu sais, quand on se fait critiquer sur les réseaux sociaux, de répliquer, parce que il y a des gens qui vont prendre ta part, tu sais, compte tenu de ce que tu peux représenter, Jeff, ils vont dire, ben là, tu sais, pourquoi il dit ça à Jeff Gosselin, c'est un politicien, là, tu sais, puis là, ils vont comme harceler la personne qui t'ont achalé.
Ouais, mais les réseaux sociaux, là, c'est rendu lourd.
Ben oui, fait que l'idée, c'est de pas répondre à ça, mais je veux dire, tu sais, toi, t'es un être humain comme tout le monde. Il y a des journées qui sont meilleures que les autres. Puis quand il te prend sur une mauvaise journée, puis après ça, il t'envoie un commentaire qui est totalement injustifié, je comprends des fois que vous ayez le goût de répondre.
Oui, on a le goût de répondre, mais imagine la famille. Tu sais, mes filles, moi, c'est arrivé qu'une fois, une de mes filles est arrivée, puis elle a dit, papa, tu sais, c'était une de ses amies qui avait commenté, qui avait dit quelque chose à mon sujet.
Ouais.
Puis là, je voyais que ça l'affectait. Puis.
À quel âge?
Là, elle est à 22.
Okay.
Elle a 22, c'est ma plus vieille. Puis, là, j'ai dit, Océane, perds pas de temps avec ça. Ça fait partie de la game. Va pas sur les réseaux sociaux. Va pas lire. S'il parle de moi, va pas lire. Va surtout pas répliquer. Puis, non, ma famille est très bonne là-dedans. Ils sont capables de. de tout simplement de ne pas y aller puis de ne pas regarder ça, puis une chance. Mais moi, je me souviendrai toujours de ça, c'est en 2008, un animateur de radio avait dit quelque chose à mon sujet, puis ma femme avait entendu ça en direct. Puis quand j'ai vu sa réaction, c'est là que j'ai compris comment est-ce que ça faisait mal aux proches. Puis on a passé la journée comme ça. Le soir, quand je suis revenu, quand on se retrouvait à la maison, j'ai dit « Comment a été ta journée? » Elle a dit « Je suis encore en beau maudit de ce qu'il a dit ce matin. » Mais j'ai dit « Imagine Marie-Claude, la femme de Mario Dumont, qui était une bonne amie de ma blonde aussi, là, qui se connaissait bien. Ma blonde, elle a toujours adoré Marie-Claude. » J'ai dit « Imagine Marie-Claude, elle, comment elle se sent? » Avec Mario, qui se fait toujours critiquer, qui disent que des médias peuvent dire n'importe quoi à son sujet. Je dis, imagine comment elle se sent. Puis ça a été magique. Là. Ma blonde, à partir de ce moment-là, c'est tout plein. Elle dit, non, c'est vrai, t'as raison. Dans le fond, là, c'est rien. Là, ce qu'il a dit ce matin, là, c'est rien là, là, comparativement au traitement que Mario peut subir. Elle passe à autre chose automatiquement. Mais, tu sais, en même temps que je raconte ça, c'est la politique, faut s'attendre à ça. Puis, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut toujours se concentrer sur le positif. Parce que j'ai beaucoup plus de commentaires positifs que de commentaires négatifs. Puis, malheureusement, comme être humain, on dirait qu'on
se concentre
sur le négatif. Puis, la vie est courte. Hein? On dit toujours, on se concentre sur ce qui est positif. Puis, on va travailler avec les gens qui sont positifs, puis qui veulent avancer, puis qui nous font des commentaires constructifs. Puis, c'est comme ça que je passe au travers de mes journées, puis mes semaines. Puis, honnêtement, je suis vraiment, mais vraiment pas à plaindre. Là. J'adore ce que je fais. Puis,
mais ça s'entend.
C'est un beau métier.
Mais ça s'entend, on sait que tu aimes faire ce que tu fais là actuellement. Ça a-tu été le fruit d'une longue réflexion quand tu as décidé de quitter une équipe pour par la suite être seul conseiller, puis par la suite te joindre à l'équipe du maire? Ça a-tu été une longue réflexion?
Quand j'ai quitté Québec 21, j'ai essayé de m'accrocher. Hein. Là, c'était... En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé rapidement durant l'été. Là. C'est celui qui était chef par intérim, là, Éric Mercier, qui a congédié Richard Côté, qui était chef de cabinet, sans même nous en parler. Puis là, moi, j'ai voulu m'accrocher pour dire, bon, bien, on va régler ça au conseil d'administration du parti, à l'Assemblée générale du parti, puis on va reprendre le contrôle de Québec 21, puis on va rebâtir là-dessus. Puis là, il y a Patrick Paquette qui est arrivé dans le décor, puis que lui a tout simplement aboli le conseil d'administration puis l'Assemblée générale des membres. Donc là, on n'avait plus aucun moyen de reprendre le contrôle du parti. Puis à ce moment-là, je savais qu'il n'y avait plus rien à faire, donc j'ai décidé d'aller siéger comme indépendant avec ma collègue Bianca Dussault aussi. Donc on a siégé ensemble comme indépendant. Mais pour ma part, je ne suis pas un indépendant dans la vie de tous les jours.
T'es un gars d'équipe.
Je suis un gars d'équipe, j'aime ça travailler en équipe. J'aime ça particulièrement travailler en équipe quand c'est pas tout le monde qui pense de la même façon en équipe.
Mm-hmm.
Puis là, je voyais aussi, de par mon rôle comme conseiller municipal sur le comité exécutif, mais comme associé, comme membre associé, je m'occupais des dossiers de loisirs et sports, mais il manquait des bouts. J'étais pas toujours autour de la table lorsque certains de mes dossiers étaient discutés parce que j'étais membre associé. C'était compliqué de travailler de cette façon-là. Puis c'est là qu'à partir de l'été, la fin de l'été dernier, le début de l'automne, c'est là que je suis allé voir le chef de cabinet. Puis j'ai dit, ça peut pas durer, ça peut pas continuer comme ça. Soit que je débarque du comité exécutif, puis que je siège comme conseiller municipal indépendant, ou soit que je me joins à temps plein à l'équipe, puis qu'on trouve des façons de travailler ensemble. Puis parce que ça peut pas rester comme ça. J'ai l'impression de travailler mes dossiers à moitié.
Mais il n'y avait pas eu de crouse avant ça? Il n'y avait pas eu de crouse? On t'avait pas approché? Parce que moi, j'avais collé la shot d'avance là, que tu allais te joindre à l'équipe du maire pour certaines raisons là, que je ne mentionnerai pas ici. Mais il n'y avait pas eu une petite crouse là-bas? Hey Jeff, on aurait peut-être besoin d'un gars comme toi dans l'équipe, un gars à sport et loisirs.
Ben, c'est certain que on voyait qu'on avait des atomes crochus, des affinités, à part un projet majeur dont on ne parle plus.
Ouais. Puis, Voldemort.
C'est ça. On avait, même avec le maire, avec Bruno Marchand, on s'est connus pendant la campagne électorale. On se voyait tous les jours. Puis on avait du plaisir ensemble. On avait même, pendant les débats, si j'en envoyais une bonne, il me faisait un thumbs up. À l'inverse, c'était vrai aussi.
Donc, il était capable d'en prendre.
Ben, on avait du plaisir à être des adversaires. Donc, par la suite, on a commencé à travailler ensemble. Le dossier, on se rejoignait beaucoup sur certains dossiers, mais particulièrement sur celui des patinoires réfrigérées, des patinoires couvertes. Donc, là, on se rejoignait, on travaillait ensemble. Puis, après avoir été un an de temps indépendant, là, j'ai dit, bon, on a-tu assez d'atomes crochus? On a-tu assez de raisons pour dire, je me joins à l'équipe puis je travaille à temps plein avec vous autres? C'est sûr que ça a fait partie d'une réflexion parce que j'appréhendais la réaction.
Traître à la nation!
Ben, exactement. Puis, je l'appréhendais, puis je la comprends aussi certaines personnes ont réagi de cette façon-là.
Ouais.
Puis c'est bien correct aussi. Il y a des gens, quand j'ai reçu entre 12 et 15 courriels de gens qui disaient qu'ils étaient fâchés, qui ne comprenaient pas. Puis la plupart de ces gens-là ont laissé leur numéro de téléphone. Ils m'envoyaient un courriel, puis ils mettaient leur numéro de téléphone.
Ah.
Fait que je les ai appelés, puis j'ai eu des bonnes discussions. Puis ça m'a permis, évidemment, de tu sais, qu'on s'explique, qu'on se parle, puis c'était des bonnes discussions.
OK, mais t'as pris à peine les appeler un par un pour leur dire exactement ce qu'il en était puis pourquoi t'avais pris telle ou telle décision.
Oui.
Ah, je trouve ça bien.
Puis, moi, c'est comme ça, j'aime travailler quand les gens ont au moins le courage de mettre leur numéro de téléphone puis de m'écrire avec un vrai compte. Là, on s'entend que j'ai pas... Mettons, j'ai peut-être reçu 50 à 100 courriels de bêtises, là, de... Puis j'essayais de les appeler, puis les numéros de téléphone n'existaient pas. Mais, mais au moins 12 à 15 personnes là, que j'ai réussi à rejoindre, puis qu'on s'est parlé au téléphone, puis on a eu des bonnes discussions. Puis, tu sais, des gens qui, à la fin, ça finissait, « Ouais, non, mais je comprends parfaitement, puis vous avez bien fait. » Puis dans d'autres cas, ils disaient, « Non, moi, j'aurais pas pris cette décision-là à votre place, puis je respecte ça, parce que c'est jamais blanc ou noir. Hein. » C'est moi aussi, avant de prendre une décision comme ça, j'ai évalué les pour et les contre. Aujourd'hui, je suis content de l'avoir faite, de l'avoir prise, la décision, parce que c'est la façon de travailler. J'étais à des années-lumière de ce que je pouvais faire avant.
Parce que je comprends que professionnellement, c'était beaucoup mieux de travailler avec une équipe et tout ça, mais pour le citoyen, est-ce que le citoyen il est mieux servi par un Jean-François Gosselin dans l'équipe du maire versus un Jean-François Gosselin seul?
Moi, je suis convaincu que les citoyens sont mieux servis de la façon que je travaille présentement parce que là, je suis autour de la table. J'ai accès à toute l'information. Les fonctionnaires aussi, les employés de la ville aussi, il faut se mettre à leur place. Lorsque j'étais élu indépendant dans l'opposition et que je demandais de l'information par rapport à des projets, par rapport à des échéanciers, par rapport à des coûts, par rapport à... Tu sais, je me mets à leur place. Est-ce qu'on lui donne toute l'information?
Ils demandent les secrets de la caramilk.
Alors que là, en étant dans l'équipe du maire, en sachant que le maire m'a fait confiance pour porter mes dossiers, ben là, j'ai accès aux informations, j'ai accès aux discussions. Je suis en position de décider aussi. Est-ce qu'on va de l'avant? Est-ce qu'on va pas de l'avant? Est-ce qu'on ajoute ça ou est-ce qu'on l'ajoute pas? C'est ce que j'aime faire. Puis ça permet aussi de faire avancer les choses, de faire avancer les projets. Parce que c'est toujours ça le défi. Hein? Il y a beaucoup de projets à la Ville de Québec. Puis qu'est-ce qui est encore plus prioritaire que les priorités qu'on veut faire avancer? Donc, je me retrouve dans cette position-là présentement que j'adore. Qui représente aussi ses défis, c'est normal.
Ouais.
Mais on avance.
Ouais, c'est tout à ton honneur d'avoir pris la peine d'appeler les 15 personnes qui t'avaient laissé leur numéro de téléphone puis d'avoir discuté avec eux. T'as-tu déjà eu des menaces en tant que politicien? Des menaces sur ta personne? J'ai parlé avec un député que je nommerai pas, qui me dit, Yann, nous autres, il ne se passe pas une semaine sans avoir de menaces, là, des fois sur notre personne, sur notre famille. Le parti nous a dit dans les derniers jours de prendre ça plus sérieux qu'à l'habitude. T'sais, ce qu'il me disait, c'est que moi, à recevoir des menaces, c'est un lundi. Puis il faisait tout le temps abstraction de ça. C'est pas un député qui est ministre, là. C'est un simple député. Puis il trouve ça particulier, mais il laissait ça aller. Là, le parti a dit, là, prenez ça plus au sérieux. Paul Saint-Pierre Plamondon, la Sûreté du Québec, qui a dit, ben là, va falloir penser à mettre peut-être une chemise anti-balles. C'est rendu fou, là. Est-ce qu'au niveau municipal, il y a des gens qui sont aussi craqués que ça?
Non, moi, c'est plus des menaces... On va te régler ton cas à la prochaine élection. plus ça, ça, se résume, okay. ça se résume plus à ça. Puis, encore une fois, quand je reçois ça par courriel, 9 fois sur 10, j'essaie de répondre par courriel ou j'essaie d'appeler le numéro de téléphone, puis ça n'existe pas.
Ouais.
Mais c'est tel que tel. Moi, je salue, en passant, je pourrais que ça soit clair, je salue le courage des citoyens qui prennent le temps de m'écrire puis de me laisser leur numéro de téléphone quand ils ne sont pas d'accord avec, avec moi, ou avec une décision, avec ce qu'ils ont entendu à la radio ou ce qu'ils ont vu dans les médias, peu importe, puis qui prennent le temps de m'écrire pour me donner la chance qu'on ait une discussion, puis qu'on se parle, puis qu'on s'explique. T'sais, parce qu'en même temps, j'ai pas la vérité infuse. Là. Ça se peut que je me sois trompé. Puis c'est pour ça que quand je discute avec les gens, ben peut-être qu'ils vont m'amener un angle que j'avais pas vu, puis qu'ils vont ça va me faire évoluer aussi. Là. Moi, je vois ça comme ça. C'est pour ça que je dis aux gens, gênez-vous pas. Là. S'il y a quelque chose qui va pas, on va prendre le temps de se parler. Ça prend 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes.
T'as-tu l'impression que ça a accentué les choses avec la COVID? Ça, les gens sont devenus plus fâchés. Là. Les politiciens nous disaient quoi dire, quoi faire, comment bouger, quoi penser. Quelle heure se coucher, quelle heure rentrer à la maison, qui on devait voir. J'ai l'impression que les gens ont, pendant ces 2 ans-là de COVID, qu'on pensait probablement pas vivre, toi puis moi, là, dans notre vie, là, je veux dire, on sait qu'on est rendu. J'ai l'impression que les gens sont plus agressifs par rapport aux policiers.
La période COVID, ça a été spécial.
Ouais.
On va se le dire, c'était vraiment spécial. Je pensais pas vivre ça, puis j'espère, je souhaite pas à personne qu'on revive ça.
Puis j'espère qu'on a appris des erreurs puis des bons coups aussi qu'on a fait.
Ouais.
C'est qu'il va rester des écrits de ça. Voici les erreurs qu'on a fait, voici les bons coups qu'on a fait, ce qui a moins bien marché, ce qui a vraiment bien marché.
Ben, c'est surtout aussi que ça a divisé énormément. Puis moi, je regardais, t'sais, je pense aux jeunes, t'sais, je regardais mes jeunes, mais je regardais tous les autres jeunes. T'sais, moi, je joue encore au hockey qui est dans les ligues de garage, là, on s'entend, là, j'aime ça, j'adore ça, mais que j'ai pas pu jouer pendant des mois, c'est pas grave. Mais pour les jeunes,
c'était raide.
C'était difficile, puis c'était difficile à comprendre aussi. Hein? Je me mets à la place du gouvernement, c'était pas évident. Hein? On voulait protéger le maximum de personnes.
Ouais. Mark Hamilton, le microbiologiste, là, il a dit une phrase qui m'avait marqué. Il dit « Anne, cette bébite-là, on la connaît pas. C'est comme si on était en train de tomber puis on essayait de bâtir un avion en plein vol. »
Ben, c'est exactement ça. C'est l'avion en plein vol. Puis Mark Hamilton, en passant, qui est un joueur de hockey de garage aussi, qui fait le programme à chaque année, chic type. Mais c'est exactement ça. Mais comme élu, comme représentant de citoyens, j'ai vu qu'il y avait eu une différence. Puis juste dans les activités de loisirs, tout a arrêté.
Mm-hmm.
Puis là, on le voit cette année, ça fait quand même 2 ans déjà, mais cette année, là, on voit que ça a repris là, comme c'était avant.
Ça recommence.
On le voit là, dans les chiffres. Là, c'est parce que là, les bénévoles devaient revenir, ravoir de l'affluence, de l'achalandage aux activités, que les gens, on a pris certaines habitudes pendant la COVID aussi de rester chez nous, puis peut-être d'un peu moins sortir. Là, c'est l'être humain est un être social là, quand même. Là, on aime ça voir du monde. Donc, on dirait que ça a pris du temps à revenir un peu à la normale. Puis là, je le vois, là, je le constate sur le terrain. Les gens sortent, les gens se réunissent, les gens là, aiment se retrouver.
Mais j'ai l'impression que la vision des politiciens avant la COVID puis après la COVID, ça a malheureusement pas aidé aux politiciens. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, si nous, on l'avait été, ben, toi, tu l'étais, mais moi, si je l'avais été, est-ce que j'aurais fait mieux? Je sais pas. J'aime mieux la prétention d'être capable de gérer une ville ou de gérer une province ou de gérer un pays. Fait qu'en même temps, il y a eu des bons coups, mais il y a eu aussi des mauvais coups. On a juste le devoir de se souvenir. Tu sais, les bons coups puis les mauvais coups, il faut s'en souvenir pour nos enfants. Puis nos petits-enfants, puis nos arrière-petits-enfants, parce que si ça leur arrive, il faut qu'il y ait peut-être un peu moins de souffrance que celle que nous autres, on croit avoir connue.
Non, certainement. Et aussi, tantôt on en parlait un peu, on parle de COVID, on parle de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, avant, mettons, si on retourne à 2007, 2008, 2010. Là, mm-hmm. C'était les débuts un peu là, avec Barack Obama. On disait que c'était fait aider grâce aux réseaux sociaux. On se servait de ça pour communiquer avec les gens. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Puis c'est soit très positif, très jovialiste, qui est correct, ou soit très négatif. Puis maintenant, il faut faire la part des choses. On s'en servait, je te dirais, beaucoup dans mon mandat lorsque j'étais chef de position officielle. On s'en servait beaucoup. On allait voir les commentaires, puis ça nous donnait un certain pouls. Mais on dirait que depuis la COVID, c'est plus difficile d'aller chercher ce pouls-là.
Parce qu'il y a beaucoup de négatifs.
Mais trop de négatifs. Ouais. C'est ça le problème. Il y a beaucoup trop de négatifs. On doit trouver des façons pour aller chercher ce pouls-là. C'est comment les gens perçoivent cette décision-là, comment les gens perçoivent cette possibilité-là pour prendre les meilleures décisions. Puis à la Ville de Québec, une chose que j'aime, là, qui se passe, là, puis même quand j'étais chef de l'opposition, là, je disais que c'est une bonne chose, c'est lorsqu'on consulte les citoyens, c'est une façon d'aller chercher de l'information qui est très précieuse. Puis là, la pandémie, ce qu'elle nous a amené, c'est la possibilité de faire en virtuel, avec Zoom, avec Teams, des rencontres citoyennes, où là, avant, on faisait des consultations publiques, on avait peut-être 2-3 personnes dans la salle. Là, on se retrouve avec une 60-75 personnes pour une modification de zonage. Mm. Ça, c'est merveilleux, là, parce que là, il y a plus de gens qui sont au courant. Puis là, les gens posent des questions pertinentes. Puis là, on dit, oh, OK, on le met dans le rapport, on le prend en compte. OK, si on fait ça, ça va avoir un impact sur telle autre décision. Donc ça, je dirais que ça a amené un effet bénéfique de la COVID, où là, tout le monde a été obligé de comprendre comment ça fonctionnait, les Zoom, les Teams de ce monde pour se connecter sur Internet.
Il y a eu du positif, c'est quand je parlais de positif tantôt.
Ça, c'est immensément positif.
Ouais.
Les rencontres, maintenant, à 8h, à 7h30 le matin, à 8h le matin, pas obligé d'embarquer dans mon auto pour me rendre à la course, aller reconduire les enfants, me rendre à la course à l'hôtel de ville. Je peux faire ça à partir de chez moi, puis... Il n'y en a pas de problème. On fait des présentations PowerPoint par Teams. Ça va super bien.
L'ambiance à l'hôtel de ville, comment ça va? Là? Il y a eu un peu de coltoyage. Est-ce que c'est revenu?
Ben oui.
C'est une vision des choses. Moi, je te lisais quand tu m'expliquais. Je pense qu'on s'était parlé au téléphone, hein?
Oui. Je t'ai écrit.
Tu sais, tu me dis, oui, mais on s'est parlé. Je me rappelle, j'étais dans le corridor. J'étais un gars visuel.
Puis, ben, j'ai répondu à un de tes tweets, je pense.
Ouais, tu me dis, Yann, quand on est en conseil, là, c'est un peu comme sur la glace. Il y a des coups qui se donnent, puis il y a de l'action, mais une fois que c'est fini, c'est fini. C'est fini. Là, est-ce que c'est revenu à la normale? Est-ce que tout ce beau monde-là est en train de se jaser? Est-ce que ça a du bon sens? Non.
Quand je dis ça, c'est comme un match de hockey. On joue, il y a des coups, puis après ça, on se serre la main, puis on prend un jus de pomme après ensemble.
Mais c'était pas de même avec la bombe, là?
Non, mais moi, c'est ma vision des choses. C'est comme ça que j'aimerais que ce soit. Mais c'est pas partagé par tout le monde.
Non, la bombe, il y avait des conseillers qui me disaient « Non, Yann, tu comprends pas, là. » Le conseil de ville, après ça, on le recroisait à l'hôtel de ville, puis il nous soupirait d'en face, là.
Non, mais d'ailleurs, je pense que c'est toi qui l'avais partagé, là. Quand j'essayais toujours de serrer la main du maire lorsque j'étais candidat, puis après ça, lorsque j'étais chef de l'opposition officielle contre le maire Labeaume, non, il n'y avait aucune discussion possible. C'est pas que j'ai pas essayé.
Tu l'as-tu recroisé depuis?
Non.
Puis je promène dans le secteur de la bibliothèque Gabriel-Leroy, je le vois une fois de temps en temps. Là. D'ailleurs, tu sais, bibliothèque Gabriel-Leroy, je sais pas si tu... T'as-tu été à l'intérieur?
J'ai pas été la visiter encore.
Oh my God, c'est de toute beauté, là.
Oui, j'ai vu les images, mais...
C'est un joyau qu'on a à Québec, là. Moi, j'ai passé des heures et des heures, là, pour étudier, parce que chez nous, c'était comme impossible. Puis quand j'ai rentré là, tu sais, j'essaie de me rappeler les souvenirs que j'avais... On est assez exceptionnel, cette infrastructure-là, puis j'espère qu'il y en aura d'autres de ce type-là. Bon, ça, c'est du loisir, c'est ludique aussi. Toi, tu travailles sur les sports et loisirs, les patinoires, on en est rendu où?
La bibliothèque, en passant, ça, c'est pas des loisirs. Pour la Ville de Québec, pour nous, c'est pas considéré comme des loisirs,
c'est considéré comme de la
culture.
Ah, de la culture.
Donc, moi, je suis pas responsable du volet à l'intérieur de la culture, c'est ma collègue Mme Vallière-Roland qui est responsable de ça, mais... Là, je suis responsable de la gestion des immeubles, donc je vais leur dire que tu trouves ça très beau. Les gens sont très fiers, sont fiers de leur accomplissement.
Ça a coûté cher, OK, mais on voit le résultat final, puis on peut en être fier. Tu sais, quand on est un contribuable, là, moi, c'est ça souvent sur lequel je me pose des questions. T'sais. OK, est-ce que ce qu'on a fait là, est-ce que je peux en être fier? Ce qu'ils ont fait là sur Champlain, là? C'est-tu exceptionnel ce qu'on a là, là? Comparativement à ce que, tu sais, nous autres, on vient un peu du coin, là. Toi, t'étais dans le secteur de Limoilou. Moi, j'étais dans le secteur du centre-ville de Québec. Quand j'allais me promener sur le fleuve, là, hey, c'était pas beau, là. C'était à vomir. Aujourd'hui, le fédéral a mis de l'argent là-dedans, le provincial en a mis un peu, la ville et de la danse aussi. Je suis sur Champlain, la promenade, c'est exceptionnel. Je me dis, OK, ben mes taxes ont servi à ça. Je suis fier de ça.
Exactement. Moi, la question que je me pose, puis c'est ce que j'aime avec mes nouvelles fonctions à la gestion des immeubles, en plus des loisirs et des sports, c'est est-ce qu'on en a pour notre argent?
Ouais, c'est ça.
Exemple, les patinoires extérieures réfrigérées. C'est certain que pour moi, ce dossier-là, ça vient me rejoindre parce que j'ai toujours adoré jouer au hockey, en plus, adoré jouer au hockey à l'extérieur. Donc, je suis bien placé pour dire qu'est-ce qu'on a de besoin. C'est pour que ça soit agréable de jouer au hockey dehors. J'ai eu la chance de jouer deux fois à celle de Stoneham. Mm-hmm. J'ai vu ce qui marchait bien, ce qui marchait un peu moins bien. Puis c'est de ça qu'on parle. C'est toujours de dire, bon, là, on a le choix de faire une structure pour le toit de tel type, avec un bâtiment pour accueillir les patineurs de telle façon. Qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on met pas dedans? Bien, c'est souvent de ça qu'on discute. Même chose pour le centre de curling là, qu'on va bâtir. On profite de l'opportunité d'accueillir des Jeux du Canada.
Ouais. Y a-t-il une demande pour ça, pour le curling à Québec?
Le curling, il y a deux choses. Le curling, il y a le volet joueurs de curling. Il y a environ 800 à 1000 joueurs dans la région de Québec qui jouent au curling présentement. Il y a deux clubs à Québec, trois clubs à Québec, plus celui à Lévis. Donc, il y a beaucoup de joueurs de curling, mais en plus, c'est que le curling a un volet social très, très fort. Il y a beaucoup de corporatifs, des gens qui vont aller jouer au curling, une entreprise qui va louer les surfaces pour aller jouer au curling. Donc, il y a le volet corporatif. Puis en plus, on essaie de voir, là, on est dans ce qu'on appelle le PFT, le programme fonctionnel et technique aussi. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on soit en mesure d'accueillir le grand public? Exemple, le centre de glace intact. Il y a l'anneau de glace.
Je plaide coupable. Au début, je croyais pas pantoute. Puis depuis que j'ai été voir les installations, depuis que j'ai joué au hockey là, ce qu'ils ont fait là, c'est extrêmement bien.
Ben, je plaide coupable aussi. Je croyais pas tant.
C'était 100 millions au départ, là.
Ouais, finalement, ça a fini à 76.
C'est ça.
C'était 66 au début, ça a fini à 76.
Oui, mais il y a eu un 100 millions qui avait été jasé. J'avais discuté avec un député fédéral du Saguenay. Je me rappelle plus de son nom, mais je disais, mais voyons, 100 millions de dollars. C'est ceux qui vont tourner à l'anneau de glace. Là, c'est des athlètes, c'est quoi, c'est 2% de la population peut-être qui peuvent peut-être y aller un jour. Finalement, tout ce qu'ils ont mis là, c'est de toute beauté. Là,
c'est l'anneau de glace, il y a les deux patinoires à l'intérieur. Une aux patinoires olympiques, on peut jouer au hockey dessus.
Ouais.
Mais aussi, il y a la piste de course autour. Il y a du monde qui sont là.
C'est un équipement
qui est ultra fréquenté, qui a ouvert en pleine pandémie. Donc, au début, c'était dur de voir l'achalandage, mais là, ça fonctionne très bien. Donc, c'est un peu... c'est l'exemple du curling, si je reprends cet exemple-là, je ne suis pas un joueur de curling. Donc, on travaille avec les joueurs de curling, avec la communauté, pour qu'eux viennent nous expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce qu'on n'a pas de besoin. Donc, c'est comme ça qu'on avance dans les projets. Puis, c'est comme ça que j'aime travailler, que ce soit du curling. On a retouché des terrains de baseball à Québec. On avait du rattrapage à faire. Il reste encore beaucoup d'améliorations à faire, à ajouter, mais c'est comme ça qu'on travaille aussi.
Le stade municipal, c'est-tu vous autres qui s'occupez de ça?
Oui.
Okay. Puis qu'est-ce qui va arriver avec le stade municipal? Il va-tu m'amener à avoir un peu plus d'argent qui vont être mis dessus? On va-tu...
Il y a déjà un 12 millions là, qui était déjà enclenché là, pour le retaper, pour le rénover. Là, prochainement...
Parce que le vieux stade municipal, on y allait. Là, on allait jouer là au vieux stade municipal avant qu'on reçoive les capitales. Puis c'était-tu l'allié qui avait décidé de le refaire?
C'est une bonne question.
Oui. Mais de mémoire, c'était l'allié, puis on avait fait quelque chose de toute beauté. On l'avait maquillé, là, puis c'était de toute beauté.
C'était dans les années du maire l'allié qu'on a recommencé, que les capitales ont recommencé aussi à... Bien, on commençait à jouer à Québec, qui fête leur 25e anniversaire cet été.
Déjà.
Ouais.
Ils sont vieillis, les cheveux blancs, la barbe blanche.
on est encore capable.
Là, il y a un 12 millions qui a été mis de côté.
Pour la pérennité, pour le reniper, il y a certains enjeux. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le stade Canac a été bâti en 1938, mais n'était pas fait pour être occupé l'hiver. Donc, il n'est pas isolé. Et là, il est occupé à l'année, entre autres, par les capitales, mais par les Canonniers aussi, le programme de baseball sport-études qui est là l'hiver avec la bulle en plus.
Un dôme à Québec!
Exactement, puis ça fonctionne bien. Ça aussi, c'est un autre beau succès.
Ouais.
Donc, là, on le retape. On lui refait une beauté. Il y a eu une réflexion quand même, parce que l'idée avait été lancée par Michel Laplante, de regarder la possibilité peut-être de se construire un nouveau stade de baseball. Mais ça, la réponse de la population a été quasi unanime. Là. Les gens disent non, on tient à notre stade, à son emplacement.
Il est super
on
beau.
L'aime. Ouais. Là, dernièrement, dans les dernières discussions, de toute façon, il n'y a personne qui écoute
non, ton émission.
OK, c'est bon. Là, on se posait la question, qu'est-ce qu'on fait avec les bancs? T'sais, les vieux bancs d'église.
Oui.
Moi, j'aime ça aller m'asseoir en haut, là, parce qu'on est à l'abri de la pluie. Puis, le long du premier but, on voit la ville. Qu'est-ce qu'on fait avec les bancs? Puis, là, ce qu'on me disait du côté des capitales, c'est non seulement on est mal assis, mais en plus, c'est pas facile de nettoyer en dessous des bancs. Donc, on est en train de regarder voir si on remplace pas ces bancs-là.
OK.
L'éclairage aussi, il va y avoir un nouvel éclairage. Ça n'affectera... Il n'y a aucun travaux, il n'y a rien qui affecte la saison de baseball. C'est autant des capitales que tout le baseball mineur qui joue au Stade Canac, le tournoi Bobby Sonnette, la classique l'été, il n'y a rien qui va affecter.
Parce que moi, je trouve que
l'emplacement
est idéal, il y a du stationnement, c'est à l'entrée de l'autoroute. Quand on a à vider la place, ça se vide super rapidement aussi. De le faire ailleurs, je ne vois pas d'autres emplacements pour le stade de baseball à Québec.
Non, mais il va rester là. Puis là, l'autre beau dossier, gros dossier, je dirais, c'est que présentement, avec la bulle, ceux qui vont jouer à la bulle, ben c'est dans des roulottes. Puis là, ça a fait son temps. Donc là, on travaille pour avoir un bâtiment qui est plus permanent.
Y a-t-il des choses que vous êtes obligé de vous limiter? Parce que, bon, avec le dernier budget, je sais que le maire Marchand a dit aux contribuables puis aux entrepreneurs qui ont des commerces, là, on va vous faire une fleur, là, on va vous donner tant d'augmentation, on a dû couper à certains endroits. Est-ce qu'on a coupé dans les sports et les loisirs? Y a-t-il des projets que tu avais en tête que tu t'es dit, boy, peut-être incertitude économique, on va peut-être remettre ça dans 2 ans, 3 ans, 4 ans?
On fait toujours des choix. C'est certain que... T'sais, moi, je dis toujours, à la place du cerveau, j'ai un fichier Excel. T'sais, moi, je regarde tous les projets, je regarde ce qui coûte, je regarde les montants d'argent en 2024, 2025, 2026. On est rendu sur 10 ans, on planifie sur 10 ans. C'est certain qu'on se ramène beaucoup dans les 3 premières années, là, parce qu'on fait des projets comme ceux-là. On est obligé de faire des choix dans certains cas. Puis on dit, bon, la priorité, c'est de mettre l'argent là. Et non de la mettre à cet endroit-là, on va reporter d'un an. C'est des choses qui arrivent, des impondérables aussi. Il y a des opportunités aussi, comme si le gouvernement du Québec arrive avec des programmes de subvention où eux viennent payer une partie. S'ils viennent payer jusqu'aux 2/3 d'un projet, par exemple, ben, ça vaut la peine d'en profiter. Donc, ouais. On peut accélérer certains projets
ça, c'est
grâce à ça.
Ça, c'est toi qui es en charge de surveiller ces programmes-là du gouvernement qui sortent ou il y a des employés qui ne font que ça?
Ah, il y a des employés qui font que ça. Notre directeur général aussi à la Ville de Québec, M. Monti, qui était sous-ministre aux Finances avant, lui est très familier avec tous les programmes qui existent. Même au loisir, à la gestion des immeubles et... Les directeurs, les directrices sont à l'affût de tout ce qui existe, là, de toutes les opportunités. Puis à la Ville de Québec, que ce soit aussi pour l'aqueduc, l'égout, on a toujours notre plan, ce qu'on appelle les plans d'intervention, les projets qui sont planifiés. Mais c'est certain qu'on profite des opportunités lorsque le gouvernement arrive avec des programmes.
Ouais. Est-ce que, c'est des questions peut-être un peu plus gossantes, là, mais est-ce que la capacité de payer des contribuables est prise en compte quand vous prenez des décisions?
Toujours. Ouais. Puis ça...
Puis de quelle façon vous le faites?
Ben, je suis sur le comité budget.
Ouais.
Bon,
enfin, j'en ai un!
Et ça, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'adore faire. Et c'est pas compliqué, il y a deux budgets. Il y a le budget de fonctionnement. Donc, ça, c'est l'équivalent de payer l'épicerie. On s'entend? On payer notre épicerie, payer notre essence pour se déplacer, nos paiements d'assurance, d'auto, ce que ça nous coûte pour vivre. À la ville, c'est la même chose. Il y a le budget de fonctionnement à tous les ans qui revient, qui est augmenté. Évidemment, tout augmente. C'est le cas aussi du budget de fonctionnement. Et il y a le budget d'investissement. Ça, c'est l'équivalent de s'acheter une maison, de se construire une maison. C'est un investissement, des investissements qui sont plus long terme. Donc, à tous les fois, bien, on a toutes les directions de tous les services qui viennent nous voir au comité budget, qui nous présentent leurs demandes budgétaires. Nous, on est toujours évidemment en train de leur demander est-ce que c'est vraiment nécessaire? Vous avez besoin d'un employé, 2 employés de plus, de tant d'argent de plus. Où est-ce que vous pouvez couper? Qu'est-ce que vous pouvez rationaliser?
Vous le demandez vraiment, ah, ça? Y a-t-il des endroits où on peut couper?
Vous n'avez pas idée. C'est intense.
Parce qu'on dirait que le nombre
j'adore ces rencontres-là.
On dirait que le nombre d'employés à la ville ne cesse de croître. On dirait que les budgets de la ville, pour ce qui est de leurs idées et tout ça, ça, ils nous en demandent tout le temps plus. Mais c'est rare que j'entends un maire sortir pour dire « Voici les endroits où on a coupé. » Peut-être qu'il y aurait avantage à le faire. Je ne suis pas un fan du maire. Là. Je le respecte en tant que personne, mais je ne suis pas un fan de sa profession, mettons, puis de la façon dont il agit. Mais il y aurait peut-être avantage à le faire, ça, de dire « Regardez, on a fait ça, ça puis ça. Malheureusement, on a dû couper à tel ou tel endroit pour pas trop en demander aux citoyens. » Pourquoi vous le faites pas? Ça serait tellement le fun de l'entendre.
Le maire de Québec, entre autres, il le dit hein, par rapport aux taxes, par exemple, l'augmentation de taxes. Lui, il voulait qu'on limite l'augmentation de taxes au minimum. Il y avait déjà une cible pour les deux premières années à n'a pas augmenté plus que 2,5%. Mm-hmm. L'année dernière, c'était 3,9% si on prend toutes les augmentations aussi par rapport aux différents tarifs. Dans les différents permis, les demandes de changement de zonage, des choses comme ça. Donc, ça monte à 3,9%. Et c'était une commande directe. C'est une commande directe du maire là, qui nous donne des orientations. Puis nous, après ça, il faut travailler dans ces paramètres-là. Lorsqu'on se compare, par exemple, à la ville de Lévis, qui a augmenté à 7,7%, ben on a les mêmes augmentations de coûts que la ville de Lévis, la ville de Québec. Là, on est à côté.
Mais tu sais, c'est pas une critique à l'égard de la façon dont vous gérez la ville. C'est plus au niveau des communications. Moi, quand je manque d'argent à la maison, il faut que je coupe à certains endroits. On parlait d'un dossier aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent en direct, dossier de la SAQ. Les gens vont moins à la SAQ qu'ils allaient avant. C'est en raison du fait que le budget rétrécit. Ben, en fait, le budget même était capacité d'achat est moindre. Ce qui fait en sorte que tu coupes sur l'alcool. Puis je l'ai dit, moi, tu sais, avant, j'allais peut-être là une fois par semaine. Là, j'y vais une fois ou deux semaines.
Ah, mais ça coûte cher. Ça coûte cher.
Mais il faut le dire, ça,
en passant, quand je dis on a pris la décision d'augmenter les taxes de 3,9%, ça nous a pas fait plaisir de faire ça.
Ben non,
on aurait aimé mieux les geler puis même les baisser à la limite.
Peut-être des contribuables
mais,
aussi.
Mais à un moment donné, il faut faire des choix. C'est certain que lorsque j'arrive moi-même à la table, puis je dis, je veux qu'on ajoute tel service, je veux qu'on ajoute tel projet, bien, à l'autre bout, il faut que les revenus suivent, il faut que ça se tienne, il faut contrôler la dette aussi. On veut continuer le plan de réduction de dette, puis on est sur la cible présentement, donc on veut continuer ça. Puis après ça, bien, c'est des chiffres, si on dit, au lieu d'augmenter à 3,9%, on augmente à 2,5% ou on n'augmente pas, ben qu'est-ce qu'on coupe, qu'est-ce qu'on reconduit pas. C'est lorsqu'on parle du déneigement, par exemple, c'est toujours le meilleur exemple que j'utilise. Oui. On a fait un plénier sur le déneigement l'année dernière.
Garde ce petit moment-là, on va faire une pause, fait que les gens vont être obligés d'attendre pendant deux minutes, puis on revient avec le dossier du déneigement. Je rappelle que ce soir, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Jean-François Gosselin, qui est conseiller à la Ville de Québec. Alors, on va faire une courte pause et on revient tout de suite. Jean-François Gosselin, conseiller à la Ville de Québec, est avec nous pendant le podcast du soir, dans Mars au soir. Quel plaisir que j'ai de t'avoir. Merci beaucoup de venir prendre le temps de jaser avec nous autres. Les auditeurs vont certainement l'apprécier. Puis je suis pas mal persuadé qu'en podcast, lorsque ce sera disponible en podcast, ça va sortir pas pire. Ben, les autres parties vont vouloir savoir qu'est-ce que t'as dit.
J'espère que je me mets pas dans le trou.
Avant la pause, on parlait du fameux dossier de déneigement. Puis, tu sais, la Ville de Québec, moi, je m'attends à ce qu'il s'occupe, je sais que c'est pas sexy, mais ce qu'il s'occupe de mes vidanges, de mon déneigement, des infrastructures, les dossiers que tu as, à mes yeux, à moi, c'est des dossiers qui sont très importants, le sport et le loisir. Puis le déneigement, on dirait que ça en vient année après année. Je pense pas que tu veuilles la job. Vas-tu postuler à un moment donné pour la job de déneigement?
Je l'ai déjà dit, c'est la job la plus ingrate après celle du ministre de la Santé. Je veux rien savoir de m'occuper du déneigement.
Puis à l'ère des réseaux sociaux, c'est extrêmement cruel là, pour celui qui est responsable de ce département-là, parce que les gens vont filmer ce qui va pas dans leur rue. Puis, tu sais, voir un déneigeur qui pèle de la neige qui n'existe pas, ça a été quand même surprenant dans les dernières semaines. On le salue s'il nous écoute, là. Mais ça, le dossier du déneigement, il n'y a jamais de satisfait. Là. C'est rare, les gens satisfaits.
Ben, Oui, il y en a, mais on ne le sait pas. Mais non, on rit en même temps. Imaginez là, ce que c'est déneiger. Moi, je l'ai fait une nuit de temps avec un déneigeur de la Ville de Québec. Imaginez. Là, pendant que nous,
t'étais-tu dans le souffleur ou dans...
Dans une grappe.
Dans une grappe.
Ah oui, oui, j'ai adoré ça. Puis... Mais imaginez.
Y avait-tu de la neige cette fois-là?
Oh, oui, oui, okay. Oh, oui. C'est, on reviendra à cet épisode-là. Mais imaginez les gens qui déneigent pendant que d'autres, on dort sur nos deux oreilles. Puis des fois, on se réveille un peu parce qu'on les entend passer. Là. Imaginez, eux font ça, là, okay? La nuit. Lorsqu'on a eu notre plénier sur le déneigement, pour vous donner juste un exemple, on a appris que ça coûtait 4 millions à chaque fois qu'on faisait une opération d'enlèvement de la neige.
Quand on, j'avais quand vu on sort 1 million?
4.
C'est 4?
4 millions. L'hiver dernier, là, pas l'hiver qu'on vient de terminer, hein, on avait eu 13 opérations de déneigement. Donc, c'est énormément d'argent. Maintenant... Nous, au municipal, on appelle ça un niveau de service. Quel niveau de service est-ce qu'on veut donner? La politique de déneigement qui a été votée à l'unanimité, en passant, dans l'ancien mandat, donc tout le monde était d'accord avec ça, est disponible sur le site Internet de la Ville. Là. Ça dit, bon, à tel type de rue, tel type de priorité, à tant de centimètres, on sort, les contracteurs, que ce soit de la Ville ou du privé, bien, on tant de jours pour aller les ramasser. C'est cette politique-là qui guide les décisions administratives qui sont prises par les équipes de sortir ou pas sortir. C'est ce qui est arrivé récemment où ce que... Moi, j'étais le premier, là, j'ai questionné. J'ai eu la chance de partager le bureau avec le responsable du déneigement qui est Pierre-Luc Lachance.
Il dort-tu bien?
Non, mais j'ai dit, Pierre-Luc, explique-moi ça s'il vous plaît. Là. Je comprends pas pourquoi ils sont sortis. Il m'a sorti la statistique intéressante qui dit qu'il y a 250 variables qu'ils prennent en compte lorsqu'ils décident de sortir ou pas sortir. Puis il y avait du froid qui s'en venait cette fois-là. Il y avait de la météo un peu bizarre.
Puis les bouches d'égout, on voulait pas.
Les bouches d'égout, et c'était le jour, ça fondait, le soir, ça gelait. Là, bref, je ne suis pas un expert en déneigement. Par contre, les citoyens, on n'est pas des experts en déneigement. Par contre, on a le droit de questionner. Puis là, c'est ce qu'on a fait. On a questionné. C'est certain que les équipes de déneigement aussi, après l'opération, après ce qu'ils ont vu la tollée médiatique aussi...
Il y a des déneigeurs qui m'ont écrit, ils me disent « Anne, je n'avais pu mettre des lunettes fumées à 2h du matin, je l'aurais faite.
Ben, » Non, mais c'est ça aussi. Les gens sont qui encore là, qui déneigent la nuit là, pendant qu'on dort, se sont questionnés certainement. Puis ils veulent toujours s'améliorer. C'est des gens dévoués, puis ils font bien leur travail. C'est pas évident de déneiger à Québec. Puis en plus, à Québec, il y a des particularités. T'as des côtes au centre-ville. Dans le nord, dans mon district, souvent, il peut y avoir 2 à 3 degrés de différence aussi. À des endroits, ils mettent du sel, du sable. Puis ailleurs, on n'en met pas, on en met moins. C'est vraiment toute une gymnastique.
Fait que je comprends que toi, tu ne prendras pas ce département-là des
ça
prochaines années.
Ça m'intéresse zéro.
on termine avec ça, Jean-François Gosselin. Bon, tu as été député provincial, tu as été conseiller, tu as été chef de l'opposition. Tu restes encore des défis en politique?
Et puis,
c'est comme dans une entrevue question, pour un nouvel job. Là. C'est non. Où tu te vois dans 5 ans?
Pas la mairie en passant.
Non.
Ça, c'est terminé.
C'est terminé?
C'était un 2-3, j'ai perdu en 2, c'est terminé. Conseiller municipal, j'aime vraiment ce que je fais. Mon intention, c'est de me représenter à la prochaine élection. Je veux terminer les projets que je sais que j'ai commencé, mais que j'ai pas tout à fait terminé, entre autres les patinoires.
Ouais.
Je veux qu'il y en ait une dans les 6 arrondissements. Là, il y en aura 2 lors de l'élection. Donc, je veux terminer ça. Il y a un projet de centre communautaire aussi que les gens attendent depuis les années 90 là, dans le nord de Beauport.
Mm-hmm.
Je veux faire ça. Il y a le parc Chevalier aussi dans le district de Saint-Thérèse-de-Lisieux.
Mais tu dois-tu terminer ta carrière?
Je me vois faire un autre mandat.
Un autre mandat. Ouais.
Présentement, c'est vraiment ça. Parce que j'ai le goût de faire d'autres. J'avais le goût de faire d'autres choses aussi. Quand je m'arrête puis je pense un peu à ma carrière professionnelle,
ouais.
J'ai le goût de faire autre chose. Mais j'adore ce que je fais présentement. Donc je me dis.
Travailler dans les médias pour critiquer les politiciens, ça t'intéresserait pas?
Ah ça, j'adorerais ça.
L'empire contre-attaque.
Oui, oui, je me gâterais. En plus, je pourrais critiquer tous mes adversaires actuels.
Ben
je pourrais
oui.
le faire après. Ben oui, on va. Non. Mais pour l'instant, j'adore ce que je fais. Puis quand on se présente à une élection, ma façon de voir les choses, ça a toujours été de dire je veux que ce soit les citoyens qui décident. Ce sont les citoyens qui vont décider si je continue ou si j'arrête. Et là, les citoyens, les deux fois que je me suis présenté à la mairie, j'ai quand même fini deuxième contre M. Labombe. J'ai fini troisième après la quasi-égalité entre le même Marchand et Marie-Josée Savard.
Ah, vas-tu bien aujourd'hui, Mme Savard?
Ça fait longtemps que je lui ai reparlé, mais moi, la dernière fois que j'y ai parlé...
Elle a vécu quelque chose ce soir-là que très peu d'humains vont vivre dans leur vie.
Mais Marie-Josée, c'est une personne extraordinaire.
Ouais.
Je l'ai côtoyée pendant 4 ans. Puis c'est vraiment une bonne personne. Elle ne méritait absolument pas ce qui est arrivé. Puis, comme j'ai dit tantôt, pensez toujours à la famille.
Ouais.
Imaginez, Marie-Josée, c'est une mère de famille fière de ses enfants. Imaginez, le lendemain, je pensais à ses enfants, je me disais...
Oui, mais on a pensé à la même affaire.
S'il faut qu'il y ait à l'école, là, puis là, ça va être... Ça devait être épouvantable. Mais non, mais Marie-Josée, c'est une femme forte. Puis on s'était reparlé un peu par la suite. Là, on s'était texté. Puis non, elle allait super bien, puis elle était heureuse.
Résiliente. Puis,
même à la limite, si je ramène ça à moi, c'est quand je regarde comment ça se passe aujourd'hui, la vie que j'ai aujourd'hui, je manque rarement un match de hockey de mes fils. Je regarde le maire Marchand aller. C'est un gars qui travaille énormément. Ça n'a pas de sens. Que vous l'aimez ou que vous ne l'aimiez pas, là, moi, je l'aime. C'est mon chef, c'est mon leader. Là. Je le suis. Il travaille, c'est incroyable. Le gars n'a pas de vie, je vous le dis. Là. Il n'a pas de vie. Mais lui, il adore ça. Il aime ce qu'il fait. Puis je me dis...
Fait qu'on va compter sur toi pour un autre mandat.
La population a toujours raison.
Ouais.
La population a décidé que je serais conseiller municipal. Puis je me représente pour un autre mandat, c'est eux qui décideront.
Jean-François Gosselin, ça a été un plaisir.
Pareillement, on refera ça une fois par année.
Ben oui, ben, tu peux venir quand tu veux. Ça dépend des sujets que tu veux aborder. Des fois, j'aime ça brasser un peu de merde.
Non, mais là, tu n'as pas brassé beaucoup.
Mais c'est ça le podcast. C'est que, tu sais, c'est en pourcentage, c'est l'émission qui est la plus écoutée à cette heure-ci. En pourcentage, on est de la station, je parle là. Fait que, tu sais, on se rend compte que les auditeurs aiment la formule podcast parce qu'on fait juste jaser. On parle de choses qui nous touchent. Il y a des trucs humains au travers de ça. Tu as parlé des projets de la ville. Tu nous as parlé du processus aussi de décision pour les projets que vous aviez. Bon, la façon dont vous parlez aux fonctionnaires pour ce qui est des... Bon, tu as besoin de 2 employés, mais y a-tu des endroits où tu peux couper? C'est le fun pour l'auditoire d'en apprendre peut-être un peu plus. Puis ça, ben, c'est grâce à des gens comme toi qui acceptent de se prêter au jeu puis de répondre aux questions.
Puis ça se peut qu'on se mette dans le trouble un peu et qu'on fasse des erreurs. J'ai hâte de voir dans les prochains jours.
Bon, écoute, j'en ai vu des vertes et des pommures depuis que je fais ce métier-là. J'ai déjà eu un qui est arrivé sous en ombre.
Ah oui! C'était à ton micro?
Oui.
Oh boy.
Oui, puis tu sais, il faut finir là-dessus parce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent après l'émission. Mais j'étais partagé entre faut que je protège le gars puis faut que je protège la population parce que je me suis dit, il est venu en char. Puis si je le laisse partir là, puis je le garde pas pendant 1 heure, 2 heures, il va repartir avec son char. Fait que je voulais pas qu'il se fasse mal, je voulais pas qu'il fasse de mal, mais il a scrappé la carrière qu'il voulait entamer.
Ah, je me souvenais pas que c'était à ton émission, mais ça, on n'a pas le temps aujourd'hui, on en reparlera.
Ben oui, on en reparlera hors d'onde. Merci beaucoup, Jean-François Gosselin.
Merci.
Je vous souhaite à tous un excellent week-end de 4 jours pour ceux qui peuvent se le permettre. Sinon, pour les autres, on se rejase mardi, 11h pour ce qui est de Marceau le midi. Merci d'avoir été là.